Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le dimanche des missions. L'Église nous demande de prier, non seulement pour les missionnaires, mais de prier pour que nous gardions l'esprit de mission. Nous sommes à peu de choses près, dans la situation dans laquelle étaient les premiers missionnaires envoyés par notre Seigneur. Les apôtres. Notre Seigneur a commencé son église sur la terre, ici-bas, il y a 2000 ans, avec 12 apôtres et 70 disciples. Par rapport à la population de l'époque, c'est à peu près la même proportion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les quelques milliers de catholiques qui restent dans le monde par rapport à l'ensemble de la population. Et nous aussi, nous sommes envoyés par notre Seigneur Jésus-Christ pour prêcher, pour baptiser, pour enseigner, pour montrer le chemin qui mène au ciel. Là, pour nous, c'est plus difficile. Pourquoi? Nous n'avons pas le don des miracles. Les apôtres avaient le don des miracles, nous ne l'avons pas. Mais nous avons quelque chose qu'ils avaient, nous avons la foi. Et donc, il nous faut utiliser cette foi pour garder l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, en dehors duquel nulle personne ne peut être sauvée. Et surtout aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin justement de prier, de rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu. Et lorsqu'une Église perd son rôle missionnaire, son esprit missionnaire, elle perd sa raison d'être. Et on le voit tout à fait dans l'Église de Vatican II. Il y a quelques jours seulement, le pape de l'Église de Vatican II a eu commis un scandale épouvantable en faisant à Rome même, une cérémonie païenne, en officialisant une cérémonie païenne, participant à une cérémonie païenne avec des païens d'Amazonie. Les pauvres martyrs devaient se retourner dans leur tombe. Alors plus que jamais, dans ces époques où les gens perdent la foi de tous les côtés, nous avons, nous, à affirmer la foi catholique et à être la lumière du monde et le sel de la terre. Alors je voudrais vous commenter pour ce sermon un petit peu, cette magnifique oraison que l'Église nous demande de commémorer aujourd'hui, à savoir l'oraison de la propagation de la foi. La voici, c'est mon goût personnel, c'est sans doute la plus belle oraison du missel. Il faut bien la méditer. Ô Dieu qui voulait que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité, daignez envoyer des ouvriers dans votre moisson. Et ordonnez d'annoncer avec confiance votre parole afin que votre doctrine se répande et soit glorifiée, que toutes les nations puissent vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit. C'est tout la première partie qui est importante. Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut, qu'ils connaissent l'existence de la vérité. De volonté antécédente, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, Dieu veut que tous les hommes aillent au ciel. Même si de volonté conséquente, tous les hommes ne vont pas au ciel. C'est une distinction extrêmement importante que ne fait plus justement l'Église de Vatican II. L'Église de Vatican II enseigne que Dieu, par sa mort, a sauvé tous les hommes et donc tous les hommes vont au ciel. Non, Dieu, par sa mort, a réouvert les portes du paradis. Il nous donne accès, par les mérites de sa passion, aux grâces dont nous avons besoin pour nous sauver. Mais encore faut-il que justement nous puissions, par les mérites de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, utiliser justement ces grâces de la passion pour aller au ciel. Et si nous ne sommes pas unis par les grâces de la passion à notre Seigneur Jésus-Christ, si nous n'avons pas en nous la charité, nous ne pourrons pas aller au ciel. Alors essayons de réfléchir un petit peu donc à cette très belle oraison donc de la messe de la propagation de la foi. Essayons de réfléchir un peu pour savoir pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas créé une église dans les nuées du ciel seulement. Il a voulu que cette église soit aussi ici-bas. N'oubliez pas qu'il y a trois parties dans l'église. Bien sûr, il y a l'église du ciel, qu'on appelle l'église triomphante. Il y a aussi l'église d'ici-bas, qu'on appelle l'église militante, et l'église du purgatoire, l'église souffrante. Pour cela qu'on va avoir ces trois belles fêtes qui suivent comme par hasard, parce que le bon Dieu sait ce qu'il fait, le dimanche des missions, la fête du Christ-Roi dimanche prochain, qui va célébrer l'église d'ici-bas, l'église militante. Immédiatement après la fête de la Toussaint, 1er novembre, qui va célébrer la partie de l'église qui est au ciel, l'église triomphante. Et enfin, l'église du purgatoire, le jour des morts, le 2 novembre, à savoir l'église souffrante. Alors, on peut suivre tout simplement, prendre l'exemple sur ce que faisait saint Thomas d'Aquin. Lorsqu'il voulait définir quelque chose, il passait toujours par les quatre causes. Alors, reprenons les quatre causes pour essayer de comprendre pourquoi et comment notre Seigneur Jésus-Christ, justement, a voulu utiliser son humanité souffrante, pour justement nous permettre d'aller au ciel. La première question qu'il nous faut nous poser, quelle est la cause finale de l'incarnation du Christ? Mais la cause finale, c'est dans les raisons d'aujourd'hui, la cause finale, c'est que les hommes puissent se sauver. Par son incarnation, en acceptant d'avoir uni sa nature divine à la nature humaine, notre Seigneur Jésus-Christ va rouvrir les portes du paradis avec sa passion. Donc le but de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, le but de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, et ensuite la création de l'Église catholique qui va continuer en quelque sorte sa présence sur la terre, puisque c'est le rôle de l'Église catholique, de continuer notre Seigneur Jésus-Christ et son action, eh bien le but de cette incarnation, le but de la présence de l'Église catholique sur la terre, c'est de sauver les âmes. L'Église est sur terre, Dieu a fondé une Église, une sainte catholique et apostolique, pour amener les gens au ciel, parce que c'est l'unique chemin qui mène au ciel, il n'y en a pas d'autre. Ensuite, posons-nous la question, quelle est la cause efficiente? Mais la cause efficiente principale du salut des hommes, c'est l'humanité souffrante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore, c'est un grand mystère, comment notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, comment Dieu a-t-il pu avoir cette idée incroyable de s'abaisser jusqu'à prendre une nature humaine. Imaginez un éléphant qui devient une petite souris, enfin c'est un peu ça. Donc Dieu accepte d'unir sa divinité éternelle, toute puissante. Il va unir cette humaine, cette divinité à quelque chose d'absolument insignifiant, la nature humaine. Et ainsi il va littéralement d'une certaine façon proposer à la nature humaine une espèce de divinisation d'un certain côté, on peut le dire, la fameuse phrase de saint Augustin que je cite souvent, Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Donc la cause efficiente de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'est son humanité, mais son humanité souffrante. Dieu a pris une humanité pour pouvoir souffrir. Dieu est né de la Sainte Vierge Marie pour pouvoir mourir sur la croix. C'est l'unique raison de sa présence sur la terre. La mort sur la croix, et par la mort sur la croix, de rattraper le mystère de sa mort, de rattraper les conséquences du péché. Puisque le péché étant quelque chose d'infini, l'infini contre Dieu, il fallait un être infini pour rattraper le péché, et Dieu seul est cet être infini. Mais Dieu veut utiliser aussi, et c'est là ce que dit également l'oraison d'aujourd'hui, qu'est-ce que dit l'oraison? Dieu, vous qui voulez que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la divinité, de la vérité, amenez des missionnaires, des ouvriers à votre moisson. C'est ça, la cause efficiente instrumentale. Le bon Dieu, bien sûr, nous sauve par son humanité souffrante. Mais il demande aussi à ce que nous, catholiques, membres de l'Église catholique, membres de l'Église souffrante, nous participions à sa passion. Il faut que nous devenions des missionnaires, nous aussi. Il ne faut pas croire que les missionnaires, c'est simplement les prêtres. Nous devons tous devenir missionnaires, comme les premiers apôtres, comme les premiers disciples, qui n'étaient pas tous prêtres, pas tous évêques, ils sont partis à la conquête du monde, eux aussi. Alors, posons-nous la question maintenant de la cause formelle. Quelle est la cause formelle de la présence de l'Église catholique sur la terre, la cause formelle de la présence de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur la terre? Eh bien, cette cause formelle, ce sera de faire parvenir à tous les hommes la connaissance de la vérité, nous dit l'oraison de la messe, de la propagation de la foi. Faire connaître la vérité. Et si ceci nous amène à la cause matérielle, la cause matérielle qui permet justement à l'évangélisation du globe de se faire, cette cause matérielle, c'est d'essayer par tous les moyens d'introduire dans le monde moderne le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. À savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment roi parce qu'il est créateur et parce qu'il est rédempteur. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi, n'est pas créateur et rédempteur que des catholiques. Il est roi, créateur et rédempteur de tous les hommes. Et donc tous les hommes, quels qu'ils soient, puisqu'ils ont tous été créés par Dieu, puisque tous ne peuvent être rachetés que par Dieu seul, en dehors duquel il n'y a pas de salut, tous les hommes sont donc tenus de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme roi, c'est la fête du Christ en roi. Et aujourd'hui, plus que jamais, alors que ce dogme, c'est certainement le dogme qui est le plus nié par l'Église de Vatican II, par le monde moderne, le dogme du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle justement que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi au ciel, mais qu'il veut aussi être roi ici-bas dans la société. C'est pour cela que le dogme parle bien d'une royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment dans un monde aussi pourri que le monde dans lequel nous sommes obligés de vivre, comment dans ce monde complètement pourri, comment pouvons-nous prêcher notre Seigneur Jésus-Christ? Monseigneur Lefebvre nous avait fait une fois un sermon magnifique. Il avait expliqué quels étaient les points des exemples qu'il donnait aux populations noires très simples qu'il évangélisait, surtout en Afrique noire, en Afrique centrale, au Gabon, là où il a été longtemps pendant missionnaire, comme prêtre missionnaire. Il nous disait, il donnait trois choses. La messe, la Sainte Vierge, le pape. Faire comprendre justement que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, se manifestait à nous par la Très Sainte Vierge, par la messe et par le pape. D'abord, bien sûr, par la messe, puisque la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, et c'est la façon qu'a voulu choisir notre Seigneur Jésus-Christ pour rester parmi nous, puisque la messe, c'est la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, c'est la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au tabernacle. Présence de notre Seigneur Jésus-Christ au tabernacle avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et donc il fallait d'abord pour le missionnaire donner à ses paroissiens l'amour de la Sainte Messe. C'est la première étape. La deuxième étape, c'était donner aux paroissiens l'amour de la Très Sainte Vierge Marie. Parce que c'est elle, par elle, elle est le cou de l'Église, ne l'oubliez pas. C'est par elle, justement, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. S'il n'y avait pas eu la Très Sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ ne serait pas incarné, on ne voit pas de la même façon. Il a voulu s'incarner par la Très Sainte Vierge Marie. C'est pour ça qu'il a envoyé l'ange Gabriel pour demander à la Très Sainte Vierge Marie d'accepter de devenir la Mère de Dieu. Et de venir, en acceptant de devenir la Mère de Dieu, elle a dû accepter de devenir co-rédemptrice du genre humain. Et comment elle est devenue co-rédemptrice et médiatrice de toutes les grâces? Elle est devenue co-rédemptrice du genre humain, médiatrice de toutes les grâces, par l'acceptation de la croix. La messe, c'est la croix. Et la première personne qui a dû porter la croix, c'est la Très Sainte Vierge Marie. Et la troisième chose dont parlait justement Mgr Lefebvre, toujours à ces populations noires, toutes simples, auxquelles il avait été envoyé prêcher, qu'il avait envoyé prêcher, bien c'est le pape avec un grand P. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui on entend parfois des gens dans la tradition sédévacantiste nous dire qu'il ne faut plus parler du pape. J'ai au contraire, il faut en parler, encore plus qu'avant. Le pape avec un grand P, le pape avec la papauté demeure un article essentiel de notre foi catholique. Et donc même si malheureusement, hélas, nous sommes orphelins d'autorité depuis la mort du pape Pie XII en 1958, ce n'est pas une raison pour ne plus en parler du pape. Ça, je dis toujours, il faut que les familles catholiques prennent soin justement de garder dans leur maison pour leurs enfants, ou leurs futurs enfants, de garder dans la maison la croix, qui représente le sacrifice de la messe et la rédemption, la Très Sainte Vierge Marie et le pape. avait derrière, juste sous l'image de Saint Ignace de Loyola, au fond de la chapelle, derrière le paravent, un magnifique buste, justement, d'un des papes pour lequel j'ai une très grande admiration, un des plus grands papes de l'histoire de l'Église, le pape Pie IX. Le pape, justement, de l'Immaculée Conception, le pape de l'infaillibilité pontificale, le pape du Quanta Courant. Et il nous faut demander justement à notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir garder dans notre cœur l'amour de la messe, l'amour de la Sainte Vierge Marie et l'amour de la papauté, encore plus aujourd'hui, parce que cet amour de la papauté est encore plus nécessaire qu'avant. Et si nous refusons de reconnaître l'autorité des papes de l'Église de Vatican II depuis 1958, c'est précisément à cause de notre amour pour le pape, de notre amour pour la papauté. On peut aussi utiliser très facilement pour expliquer, expliciter tout ce que je viens de vous dire, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de ce 19e dimanche après la Pentecôte. On parle d'un roi qui organise les noces de son fils. Et tous les pères de l'Église, tous, expliquent de la même façon, en disant ces noces représentent les noces de l'humanité et de la divinité. Dieu qui s'unit à l'homme. Ce sont ça les noces du divin Fils. Le Fils qui devient homme, représenté par ce mariage spirituel entre l'humanité et la divinité. Et donc, le roi envoie ses serviteurs pour chercher les invités. Et quels sont les invités? Quels furent les invités? Les invités, au moment de l'arrivée sur la terre de notre Seigneur Jésus-Christ, les invités, c'était le peuple juif qui avait été choisi pendant toute la période de l'Ancien Testament pour être le peuple élu. Et l'Évangile nous explique que les invités ont refusé de venir. Notre Seigneur Jésus-Christ était venu pour eux et notre Seigneur Jésus-Christ invite, rappelle à tous ces gens, « Je suis là, venez, le Messie est arrivé. » Ils ne viennent pas. Il y en a qui sont venus. Les bergers sont venus. Mais malheureusement, trompés par leurs politiciens, trompés par leurs responsables religieux, le peuple juif, dans son immense majorité, n'a pas accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que dit l'Évangile? Le roi renvoie ses serviteurs en disant « Puisque les invités ne veulent pas venir, allez chercher d'autres personnes. » Et c'est l'appel des catholiques. Notre Seigneur Jésus-Christ qui envoie justement tout le symbole des apôtres, et Saint Paul surtout, qui va aller prêcher aux gentils, parce que les juifs étaient persuadés que notre Seigneur Jésus-Christ n'était venu que pour les juifs seuls. Et puisque les juifs ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ va chercher le peuple des catholiques. Encore faut-il que nous acceptions de venir. Parce que nous aussi, nous pouvons faire la même erreur que les Juifs. Les Juifs ont refusé de venir dans leur immense majorité. Les catholiques aussi. Excusez-moi. Hein. Les Juifs aussi les catholiques aussi dans leur immense majorité, on le voit très bien aujourd'hui, refusent de venir. Alors notre Seigneur Jésus-Christ pourrait très bien aller chercher d'autres personnes. Donc il faut demander au bon Dieu la grâce de la fidélité. Mais cette grâce de la fidélité, bien nous l'obtiendrons dans la mesure où nous avons sur nous l'habit de noces dont parle l'Évangile. Et l'habit de noces, c'est quoi? Cet habit de noces, c'est la grâce sanctifiante. Qui est comme pour nous, comme une cuirasse, la cuirasse du salut, le casque du salut, le glaive de la justice, le glaive de l'esprit qui justement nous protège contre les attaques féroces du démon. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie justement ces grâces de savoir toujours garder en nous cet habit de lumière qui est la grâce sanctifiante. Relisez encore une fois l'Évangile d'aujourd'hui. Le roi vient dans la salle du festin et quand il remarque quelqu'un qui n'a pas l'habit de noces, c'est-à-dire qui n'a pas la vertu de charité en lui, eh bien il va lui poser des questions. Et celui-là va être rejeté de la salle du banquet, de la salle des noces, et envoyé dans le lieu de perdition. Eh bien, c'est pareil pour nous. Beaucoup de juifs se sont convertis. N'oublions pas que la religion catholique est fondée justement sur la religion juive au début, puisque tous les premiers catholiques étaient pratiquement tous des juifs convertis. N'oublions pas que le premier pape, Saint-Pierre, et tous les apôtres étaient tous des juifs convertis. Eh bien, ça sera la même chose pour nous. Si nous n'avons pas cette vertu de charité, l'habit de noces sur nous, nous n'aurons pas la fidélité. Et si nous n'avons pas la fidélité, nous serons considérés comme persona non grata dans la salle du banquet. Et le bon Dieu sera obligé de nous renvoyer. Alors demandons cette humilité, justement, et utilisons surtout les sacrements de l'Église catholique, utilisons cet amour pour la Sainte Vierge Marie, cet amour pour la Sainte Vierge Marie, cet amour pour la Sainte Messe, donc l'amour de la croix, l'amour de la papauté en général avec un grand P, justement pour garder l'amour des sacrements. Et cet amour des sacrements, surtout l'utilisation du sacrement de pénitence, la Sainte Eucharistie, nous amènera au pied de l'autel. Et au pied de l'autel, nous trouverons la Sainte Eucharistie pour nourrir notre corps, notre sang, notre âme, notre cœur, notre intelligence, notre volonté, avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes bien chers frères, tout ce qu'il nous faut demander par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.